particulièrement intense. Je pense que cela nous est tous arrivé à un moment donné à un autre d'avoir un songe très intense ou un cauchemar peut-être. Nous voyons parfois dans nos songes des images bizarres ou frappantes et parfois nous rappelons de ces images une fois que nous nous sommes réveillés. Récemment, j'ai lu l'histoire d'un homme qui avait de ces songes périodiquement. C'était des songes tellement intenses que les songes devenaient effrayants pour cet homme. Ces songes étaient peuplés d'animaux monstrueux, avec des dents métalliques qui déchiraient d'autres animaux ou qui détruisaient des êtres humains. Et les songes étaient tellement réalistes que cet homme en devenait terrifié. Il ne pouvait parfois dormir. Il était parfois tellement effrayé qu'il se rappelait de ses songes pendant ses heures d'éveil. Et si, parfois même à un moment donné, quand il se rappelait de ses songes, il tombait dans les pommes, comme on dit, s'évanouissait tellement ses songes étaient intenses. Telle était la puissance de ses rêves. Parfois, ses rêves le rendaient malade, même physiquement. Il ne pouvait pas manger. Il devait même rester allongé pendant plusieurs jours. Telle était la puissance de ses songes. Vous le savez peut-être pas, peut-être que vous avez déjà deviné, mais vous avez déjà lu l'histoire de cet homme également, car il s'agit de Daniel. Dieu utilisait les songes pour transmettre des informations à Daniel concernant des événements prophétiques qui devaient arriver dans l'avenir. Et tout ce que je viens de vous décrire là, vous allez trouver ça dans le livre de Daniel. Il en était malade, il ne pouvait se lever pendant 3 jours, il était allongé, il s'évanouissait parfois. Telle était la puissance de ses songes, de ses rêves. Certaines des choses que Daniel a prévues pour l'avenir ont été ensuite expliquées par un ange qui donnait l'explication à Daniel. Certaines des choses que Daniel a vues dans ses rêves ont été expliquées par d'autres visions qu'a eues l'apôtre Jean des centaines et des centaines d'années après, dans ce que nous appelons le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, c'est intéressant à noter que si vous lisez attentivement l'Apocalypse, vous allez voir que les rêves ou les songes de l'apôtre Jean ont eu une très grande puissance sur lui aussi. Il tombait raide comme s'il était mort, il marque à un moment donné, quand il explique l'effet de ses songes sur lui. Certaines des choses que Dieu a révélées à Daniel et à Jean, l'apôtre Jean, dans ses songes prophétiques, sont en train d'accomplir maintenant en Europe, pas très loin de là où vous habitez. Et je crois qu'il est bon pour nous, de temps en temps, de nous rafraîchir le mémoire, de considérer certaines de ces prophéties, afin de garder nos esprits en éveil concernant ces événements prophétisés. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, pendant le temps de ce sermon. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Et nous allons commencer à considérer certaines des choses que Dieu a révélées à Daniel. Daniel, chapitre 7. À partir du verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2 de Daniel 7 maintenant. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne, sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait du devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Descendons un peu plus bas maintenant, essayez de garder ces images en tête, nous allons revenir les commenter dans un instant, mais descendons au verset 15 maintenant. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un d'eux qui était là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. » Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Notez que la vision de ce 4e animal a eu un plus grand effet sur Daniel que la vision des autres animaux. Il y avait quelque chose de encore plus particulier concernant ce 4e animal. Il était plus effrayant que les autres. Verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Notons donc en passant que l'activité de cet animal et les cornes, nous allons voir l'explication des cornes dans un instant, s'étend jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui se poursuit dans le temps jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ quand Dieu donne la récompense à ses serviteurs. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Poursuivons verset 23 maintenant. « Il me parla ainsi. » Le 4e animal, c'est un 4e royaume. Alors là, nous devons noter, plus tôt, c'était marqué au verset 17, que les 4 animaux étaient 4 rois. Maintenant, le 4e animal n'est pas un roi, mais un royaume. Donc, roi, royaume, c'est interchangeable, hein? Ça peut être l'un ou l'autre. Le 4e animal, c'est un 4e royaume, ou empire, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc il allait avoir 10 grands gouvernements au sein de ce grand empire. Un autre s'élèvera après eux et sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Nous pouvons noter que dans l'hébreu, c'est possible de traduire ceci, s'élèvera d'après eux, c'est-à-dire d'après leur forme ou d'après leur activité. Ce n'est pas forcément une question chronologique ici, que cette petite corne allait devenir après tous les autres, mais de la même manière ou de la même sorte. Verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. » Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, certaines choses à noter. Je n'ai pas voulu trop couper ici parce que nous voulons avoir une vue d'ensemble de ces images que Daniel a vues dans son songe. Nous avons vu d'abord que les 4 animaux dont il est question au verset 23 représentent des royaumes ou des empires. Et que au moins le 4e va durer dans le temps, parce que il va être là, il va exister au moment du retour de Jésus-Christ. Nous avons vu au verset 22 que le dernier animal allait lutter contre l'Église de Dieu, allait persécuter l'Église de Dieu. Il y aurait un conflit. Nous avons vu au verset 21 et 22 que cette persécution contre l'Église de Dieu continuerait jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ. Donc, il ne s'agit pas ici de prophéties qui sont tout accomplies dans le passé. Ce sont des choses qui doivent continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous avons vu également au verset 23 que le 4e de ces royaumes va finir par dominer toute la terre. C'est une chose qui n'est pas mentionnée pour les 3 premiers royaumes. Donc le 4e, nous avons vu, qui a interpellé Daniel particulièrement, c'est un royaume qui va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous avons également vu, au verset 24, que ce 4e royaume sera composé de 10 grands rois ou gouvernements. Parce que nous avons déjà vu que roi ou royaume sont interchangeables selon les images prophétiques que nous avons. Alors, posons-nous une question maintenant. Quels sont ces animaux? Est-ce qu'on peut distinguer quels sont les royaumes en question? Dans Daniel chapitre 2, et je ne vais pas m'y référer parce que sinon ce sera un sermon qui prendra le reste de la journée si on explorait tout en détail, mais je vous donne les références. Dans Daniel chapitre 2, Dieu avait déjà révélé à Daniel, à travers le songe de Nebuchadnezzar, qu'il y aurait 4 royaumes. Cette fois-là, l'image, c'était une statue, où la tête et les épaules étaient d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, etc. Vous vous souvenez sans doute de cette statue. Et Dieu a identifié une partie, il a identifié le premier royaume. Il a dit que c'était Nebuchadnezzar lui-même qui était le premier. Donc, le livre de Daniel, déjà, nous donne l'explication du premier des 4 grands royaumes qui devaient venir. Le premier, c'était Babylone, représenté par Nebuchadnezzar. Daniel lui-même, si vous parcourez tout le livre de Daniel, Daniel lui-même a vécu suffisamment longtemps pour voir l'empire de Babylone remplacé par un deuxième empire. Daniel était présent. L'empire de Babylone n'a pas duré très longtemps, 70 ans. Hein? Et après, Babylone a été remplacée par l'empire perse, l'empire médo-perse. Et Daniel l'a vu. Donc, nous pouvons avoir l'explication de ce deuxième royaume. Si vous prenez le temps de lire Daniel chapitre 8, vous allez voir qu'il y a explication du troisième empire qui doit venir. Et ce troisième empire est identifié spécifiquement comme étant grec. Donc, le troisième empire, c'était l'empire grec, gréco-macédonien, qui débutait avec Philippe de Macédoine et puis son fils Alexandre le Grand. Donc, à l'intérieur du livre de Daniel lui-même, nous avons l'explication des trois premiers royaumes, ou au moins des indications très claires sur ces trois premiers empires ou royaumes. Et qu'en est-il du quatrième ? Quel était un autre royaume qui a remplacé les trois grands royaumes qui sont venus avant ? Quel était le royaume ou l'empire qui a remplacé ce que Alexandre le Grand avait conquis pendant ses différentes attaques sur le monde connu de l'époque ? Eh bien, il ne faut pas aller très loin dans ses études de l'histoire pour déterminer qu'il s'agit de l'Empire romain. L'Empire romain a pris le pouvoir sur la vaste majorité des endroits que Alexandre avait vaincus et régné sur les territoires conquis par Babylone, l'Empire médo-perse et l'Empire gréco-macédonien. Nous pouvons aussi, quand nous étudions l'histoire de l'Empire romain, savoir que l'Empire romain avait une union très étroite, relativement tôt dans son histoire, avec une église. L'église catholique a eu des relations très étroites avec l'Empire romain, qui est devenu, avec l'association de l'église, le Saint-Empire romain. On a donné ce titre parce qu'à travers son association avec l'église catholique, on estimait que cet empire était devenu saint. En fait, il n'était pas vraiment saint. Quand on regarde bien ce qu'il a fait, c'était loin d'être quelque chose que Dieu aurait approuvé. Mais il a au moins pris cette dénomination, le Saint-Empire romain. Quand nous regardons l'histoire de l'Empire romain, nous pouvons voir, ou le Saint-Empire romain plutôt, nous voyons qu'il y avait différents gouvernements qui se levaient, des gouvernements ou des régnants importants pendant différentes périodes. Et ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, là nous pourrions prendre tout un sermon pour déterminer ces 10 rois à travers l'histoire, mais nous pouvons savoir, au moins, et je mentionne ceci en passant, qu'il y avait 3 grands gouvernements barbares qui sortaient des endroits au nord de l'Empire romain et qui ont mis à sac la ville de Rome et ont pris le pouvoir dans l'Empire romain. C'était des Goths, les Ostrogoths, les Hérulis et les Vandales. Et ces 3 gouvernements, si vous voulez, qui avaient pris le pouvoir sur le Saint-Empire romain ou sur l'Empire romain, ont été extirpés à travers l'influence du Vatican, de la papauté en l'Église catholique. Nous avons là donc une indication que la petite corne qui a déraciné les 3 des autres représente en fait l'Église catholique et le papauté en particulier. Donc nous avons une ébauche de compréhension d'événements qui devaient venir. Ce quatrième empire, l'Empire romain, participerait à des persécutions contre l'Église de Dieu et que cela continuerait jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, le moment quand le Père instaurera à travers son Fils le royaume de Dieu, l'Empire de Dieu, si vous voulez, sur la terre. Maintenant, considérons une autre prophétie qui va ajouter des détails à ce que nous venons de voir ici. Là, il s'agit de quelque chose qui a été donné bien plus tard, dans le premier siècle de notre ère, dans le livre d'Apocalypse, dans un songe qui a été donné à l'apôtre Jean. Prenons Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Nous allons commencer au verset 1. Vous pouvez noter en passant, si vous voulez, que c'est dans Daniel chapitre 5 que vous avez l'histoire de la chute de l'Empire babyloniens et la prise de la ville par l'empire médo-perse. Hein. Cette histoire est racontée dans Daniel chapitre 5. C'est une petite parenthèse pour vos notes si vous le souhaitez. Mais commençons à lire maintenant dans Apocalypse chapitre 17. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Nous allons voir au verset 15, tournez la page juste un instant pour voir le verset 15, parce que nous avons là l'explication des grandes eaux. Quelles sont les grandes eaux? Verset 15 d'Apocalypse 17 dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc là, nous avons déjà l'explication qui est donnée par le chapitre même. Donc, il y a une prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, si vous avez déjà étudié les prophéties et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous savez qu'une femme représente très souvent une religion, un système religieux. Israël, dans l'Ancien Testament, dans certaines prophéties, est comparé à une jeune fille vierge qui, par moment, elle aussi devenait un peu prostituée parce qu'Israël n'était pas toujours fidèle à Dieu. Mais Dieu rachetait cette jeune femme et le ramenait dans le droit chemin, si vous voulez. Ça, c'est déjà un symbolisme que nous avons dans l'Ancien Testament. Vous verrez que, vous pouvez voir aussi dans Apocalypse, que la véritable Église de Dieu est comparée à une jeune femme chaste. Donc, ça serait la véritable Église. Ici, nous avons une femme qui s'est prostituée, qui n'est pas fidèle. Et là, c'est donc un système religieux qui est faux, une église qui est fausse. Mais ce système religieux est assis sur les grandes eaux, sur toutes sortes de nations différentes. C'est donc une religion qui a une puissance sur beaucoup de nations différentes. Et en poursuivant à travers Apocalypse 17, nous allons avoir des indications encore plus claires concernant l'identité de cette femme inique. Verset 2 d'Apocalypse 17. C'est avec elle, cette prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Donc ici, la débauche représente une désobéissance à la volonté de Dieu. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, écarlate comme du sang, plein de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, là aussi, avant d'aller plus loin, il est question d'une femme assise sur une bête écarlate. Maintenant, gardez votre doigt là et regardez le verset 18, et nous avons l'explication des détails à propos de qui est cette femme. Verset 18, dans le même chapitre. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, réfléchissons un instant. Nous avons vu qu'une femme est souvent associée à un système religieux. Ici, ce système religieux est associé à une ville particulière. Et cette ville et ce système religieux a une royauté sur les rois de la terre. Alors, est-ce qu'il y a un système religieux étroitement associé à une ville qui a une autorité sur les rois ou les dirigeants de la terre, historiquement parlant? Eh bien, il y en a une qui vient à l'esprit, et je n'en vois pas deux ou trois. Hein. Il y en a une qui saute aux yeux, c'est la ville de Rome, vous l'avez deviné. Alors, gardons cela à l'esprit en parcourant, parce que ça va nous aider à voir plus clair concernant ces événements qui doivent venir. Revenons au verset 3 maintenant, et poursuivons le récit que nous avons. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés, des impuretés de sa prostitution, et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, si elle est mère, elle-même est déjà indiquée comme étant prostituée, c'est-à-dire désobéissant à Dieu, et elle allait donner naissance à d'autres prostituées, c'est-à-dire d'autres systèmes religieux qui aussi ne seraient pas fidèles à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu. Là aussi, nous pourrions nous poser la question, est-ce qu'il y a un système religieux ou une grande église qui a donné naissance à d'autres qui ont suivi plus ou moins dans certaines des mêmes erreurs. Là aussi, je peux penser à une tout de suite. Si vous avez d'autres idées, j'aimerais les avoir après l'Assemblée, mais je crois que vous aurez du mal à en trouver une autre. Alors, donc, là aussi, nous avons une indication qui cadre très bien avec la ville de Rome. Elle est donc la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et c'est effectivement très étonnant. Est-ce que, puisque nous poursuivons notre examination des parallèles entre ce que nous voyons ici et l'histoire de l'Église romaine, est-ce qu'il y a eu des persécutions contre d'autres groupes chrétiens menés par l'Église romaine ? La réponse est oui. Il ne faut pas étudier très longtemps dans l'histoire de l'Europe pour savoir qu'il y a eu des croisades religieuses, même à l'intérieur de l'Europe. Toutes les croisades n'ont pas été contre les musulmans en Terre Sainte. Il y a eu, même dans le sud de la France, une croisade contre les Albigeois, contre les Cathares. Et ce n'est pas le seul. Tous ceux qui n'étaient pas, selon l'hétérodoxie romaine, pouvaient être exécutés. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Il est vrai que ce Saint Empire romain n'existait pas constamment. Ça venait par moments, parfois ça pouvait être détruit, mais cet empire renaissait à chaque fois, périodiquement, à travers l'histoire. Donc, elle était, elle n'est plus, mais elle sera du nouveau. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Alors nous avons déjà vu en Daniel que les animaux, les bêtes, représentent des royaumes ou des empires, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons ici, du nouveau. Encore une fois, avec plusieurs têtes et plusieurs cornes. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors, si nous faisons le calcul de ces têtes, si vous allez aux 10 cornes qu'il y avait dans Daniel, 3 ont été enlevées par la petite corne, les autres ne sont pas indiqués de la sorte. Ici, nous avons cette femme qui domine les 7 cornes qui sont là, les 7 qui restaient après que les 3 ont été enlevés. 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Alors ça peut sembler un peu difficile à comprendre, mais nous croyons que ce ce que cela veut dire, c'est que l'Empire romain, dans le sens classique, le territoire occupé par la ville de Rome avant son unification avec l'Église, c'est le premier, et puis il y a eu 7 résurrections par la suite. Donc, en fait, il y aurait 8, mais 7 qui sont des résurrections de l'Empire romain d'origine. Et j'espère que vous ne vous y perdez pas avec toutes ces cornes et ces têtes et tout. Si jamais je ne suis pas assez clair, venez me retrouver après l'assemblée, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais j'essaie de rendre les choses le plus clair possible. Verset 12 maintenant. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Alors, les 10 cornes que nous avons ici ne correspondent pas aux 10 cornes que nous avons vues dans Daniel chapitre 7. Cette fois-ci, ce ne sont pas des 10 rois tout à travers l'histoire, ce sont 10 rois qui vont recevoir l'autorité pendant 1 heure, pendant une courte période de temps, juste au temps de la fin, et nous allons voir, ils vont se battre contre Jésus-Christ à son retour. Les 10 cornes, verset 12 encore, que tu as vues, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Tout ceci identifie clairement l'époque du retour de Jésus-Christ, les combats contre l'agneau, contre le Christ à son retour. Ces 10 cornes qui sont 10 rois vont coopérer avec la bête, le grand chef politico-militaire au temps de la fin, pour lutter contre Jésus-Christ à son retour. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront également, ce qui montre ou indique très fortement que c'est à l'époque même de la résurrection des saints que ce grand combat aura lieu. Parce que les saints vont être avec le Christ au moment où ceci a lieu, n'est-ce pas? Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront également quand ce combat aura lieu. Alors il se peut, frères et sœurs, que vous et moi, nous y participions, que nous soyons là à participer quand le Christ mettra fin à cette rébellion contre lui. Verset 15. Il me dit, nous l'avons lu déjà, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Nous voyons ici que, au moment du retour de Jésus-Christ, le contexte est très clairement identifié, il y aura 10 royaumes, ou 10 rois, ou 10 chefs, ou 10 gouvernements, qui vont donner leur autorité à la dernière résurrection du Saint-Empire romain, ce qui identifie l'endroit, parce que le Saint-Empire romain a toujours gouverné, le siège a toujours été quelque part en Europe. Il y a eu des résurrections, nous pensons pouvoir les identifier en Autriche, même en France. Il est presque certain que Napoléon Bonaparte, qui a fait un concordat avec l'Église pour avoir son appui, a été une des résurrections de l'Empire romain. Cette dernière résurrection doit avoir lieu quelque part en Europe également, et 10 nations, groupes de nations, donneront leur autorité à ce chef militaire pour lutter contre Jésus-Christ à son retour. Ils seront sous l'influence de cette ville associée à un faux système religieux qui a une certaine autorité sur des nations de la terre. Ce qui nous indique qu'il y aura un accord ou une union entre l'Église romaine et cette dernière résurrection de l'Empire romain, le Saint-Empire romain. Mais nous voyons à la fin de ce chapitre également que quelque temps avant le retour de Jésus-Christ, cette union sous la bête va se retourner contre la femme, contre l'Église, et va s'attaquer à elle et détruire sa puissance. Et c'est, nous l'avons vu ici, de la volonté de Dieu que cette femme, ce système religieux, cette Église soit punie pour tout le mal qu'elle a fait. Et par la suite, même la bête et ses rois seront détruits également au moment du retour de Jésus-Christ. Alors, très certainement, ceci représente simplement un rappel pour vous. Vous avez lu ces choses dans le passé, peut-être pas très récemment. C'est pour ça qu'il est important de revoir ces choses de temps en temps. Maintenant, j'aimerais vous inviter à considérer certains événements qui ont lieu simplement dans les dernières semaines. Les dernières semaines ici en Europe. L'Union européenne, comme vous le savez, est en voie de développement depuis environ 50 ans maintenant. Ça a commencé en 1952 avec l'Union du charbon et d'acier. Ça a commencé avec quelques pays en 1952. L'Union européenne, depuis, s'est élargie à 25 nations, bien au-delà des 10 que nous voyons identifiés ici ou énumérés ici. Là, il est question de 10 cornes gouvernement. Là, en Europe, l'Union européenne actuelle, nous en avons 25, trop pour accomplir la prophétie que nous voyons ici. Nous voyons également que même un pays comme la Turquie, musulmane, souhaite appartenir à l'Union européenne et que cette union de 25, du moins beaucoup, était ouverte, au moins considérée la possibilité. Tout cela ne cadre pas trop bien avec tout ce que nous avons vu ici, étroitement lié à l'Église romaine et le chiffre de 10 qui revient très souvent. Cette vision de l'Europe, l'Europe très large, 25 ou plus, ouvert aux pays musulmans et sans faire mention de l'Église chrétienne du tout, vous avez sans doute noté qu'à un moment donné, je crois que c'était M. Giscard d'Estaing, voulait faire mention au moins de l'héritage chrétien de l'Europe. Et cette phrase a été coupée, parce qu'on ne voulait pas faire référence du tout au christianisme dans le projet de constitution qui a été proposé. Eh bien, par le refus de la France, des Français et des Pays-Bas, eh bien, cette vision de l'Europe a été refusée maintenant. Et il semble, bien qu'il y a eu un oui par les Luxembourgeois par la suite, ces deux noms rendent impossible, du moins pour le moment, que cette vision d'une très grande Europe à 25 ou 30 ou on ne sait combien, sans lien avec l'Église chrétienne, cette vision de l'Europe a été refusée et rejetée. Ce qui veut dire que ceux qui croient vraiment à l'Europe, et comme vous le savez, il y a des gens qui croient dur comme fer qu'il faut une Europe, une Union européenne, ils vont devoir changer le fusil d'épaule, comme on dit, ils vont devoir s'axer maintenant sur une autre vision de l'Europe. Et depuis quelques années, avant d'aller là, on peut dire que il y a quelques semaines, il y a à peu près 2 semaines, un projet d'accord budgétaire pour l'Union européenne, cette grande union de 25, a été également un échec. On n'a pas pu se mettre d'accord sur un budget européen pour les années 2007 jusqu'à 2013. Et ça aussi, c'est un échec assez cuisant, surtout quand ça suivait de si près les noms français et néerlandais. Mais nous avons également vu presque tout de suite après qu'il y avait des chefs européens ou l'élite européenne qui croient encore à l'Union européenne, commençaient tout de suite à dire « Mais peut-être qu'il faudra une autre vision maintenant, il nous faut un noyau européen. On va juste prendre ceux qui peuvent être homogènes et qui y croient vraiment, et ça sera une Europe beaucoup plus restreinte que l'Europe des 25. » L'historien britannique Paul Johnson, qui est un des historiens les plus connus dans la langue anglaise, c'est un historien de très bonne réputation en Angleterre, et je peux ajouter que c'est un historien catholique, qui est un catholique pratiquant, a écrit un article quelques jours après le nom français et néerlandais. Et ceci a paru dans la presse anglaise, a été lu également aux États-Unis. Et d'après lui, il y avait trois raisons pour l'échec et trois lacunes dans les efforts européens pour l'unification en ce moment. Les trois choses sont, d'après lui, il faut un lien chrétien, parce que c'est le christianisme historiquement qui était le col qui a permis aux Européens de travailler ensemble. C'est ça qui a donné une identité commune aux Européens. C'était leur partage du christianisme. Et quand lui, il parle du christianisme, il parle du catholicisme, en fait. Monsieur Johnson dit également que une partie du refus de cette Union européenne à 25, grande, etc., est assez sociale. Il a dit que ce qu'il faut à l'Europe, c'est plus de capitalisme. Il faut une économie plus forte pour pouvoir donner un moteur de puissance à l'Union européenne. Et puis, il a dit, la troisième chose qu'il faut, c'est moins de bureaucratie. Parce que les Européens en ont marre de toute la bureaucratie qui vient avec l'Union européenne. Là, je crois que nous sommes tous d'accord, le monde entier pourrait faire avec moins de bureaucratie. Hein. Où que j'aille dans le monde entier, les gens se plaignent de trop de bureaucratie. Mais c'est très intéressant que M. Johnson, qui, à mon avis, n'étudie pas les prophéties de l'Apocalypse ni de Daniel, a mis le doigt sur des choses qui sont mentionnées dans les prophéties bibliques. L'Union européenne de 10, qui aura lieu juste avant le retour de Jésus-Christ, aura les choses dont M. Johnson parle ici. Il y aura un fort lien avec le christianisme. Il y aura même une identité primordiale, une identité avec l'Église romaine. Ça, c'est une chose qui va venir. Il y aura aussi, et cela peut nous paraître étonnant pour le moment, puisque beaucoup d'Européens n'aiment pas le modèle capitaliste, du moins ils pensent ne pas l'aimer. Ils rejettent ça pour une vision plus, du moins on en parle beaucoup en France, une vision plus douce, plus gentille, pas le coupe-jarret du monde capitaliste, ils ne veulent pas ça. Mais quand nous regardons les prophéties concernant comment cette Union européenne sera au temps de la fin, nous voyons que ce sera hautement capitaliste et qu'il va avoir, à un moment donné à un autre, un retournement d'esprit parmi les nations qui font partie de cette Union européenne. J'aimerais juste établir ça en poursuivant dans Apocalypse 18, rapidement. Regardez avec moi Apocalypse 18. Difficile à imaginer peut-être pour nous, parce que pour le moment, l'Europe a une vision très sociale, hein, pas très capitaliste pour le moment. Le capitalisme, c'est une mauvaise chose du point de vue européen, mais Apocalypse 18 nous montre que l'Europe va en finir là. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Elle cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. » Alors rappelez-vous que c'était le nom qui était écrit sur cette femme, hein, Babylone la grande, la mère des prostituées. Donc il est question de tout ce système, l'union avec le Saint-Empire romain ressuscité et l'Église romaine au temps de la fin, elle est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et peut-être qu'il est question là physiquement de la ville de Rome, c'est une possibilité, nous ne pouvons pas être certains, mais ça semble bien possible. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Cette union au temps de la fin va être très amie aux marchands, au commerce. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça, c'est la leçon pour nous. Nous ne voulons pas participer à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Nous voulons nous tenir à l'écart de tout ce qui serait contraire à l'obéissance à Dieu. Car, verset 5, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Notez verset 9 maintenant, toujours parlant de ce même système. « Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et notez verset 11, « Les marchands de la terre pleureront et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'escarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, et même de corps et d'âme d'hommes. » Cela semble être une référence même au retour de l'esclavage à venir. Tout sera en vente. Ça sera vraiment un monstre de commerce comme le monde n'a jamais vu auparavant. Tout sera en vente. Et une grande valeur de tout ce système sera le fait de s'enrichir, de gagner, de marchander, de vendre et d'acheter. Les fruits, verset 14, que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Nous pouvons donc supposer, à travers cette description de comment sera Babylone la Grande au temps de la fin, qu'il va avoir, à un moment donné à un autre, un retournement vers un système plus marchand, plus capitaliste, si vous voulez, dans l'Europe. Et c'est intéressant que cet historien, Paul Johnson, dit que c'est exactement ce qu'il faut à l'Europe si elle va vraiment s'unir. Pour avoir une union forte, il faut avoir une plus grande commerce. Et même, il a dit qu'il faut moins de bureaucratie. Eh bien, si on arrive à un système où il y a des rois, une autorité absolue, eh bien, on n'a pas autant besoin de bureaucratie dans ces cas-là. Hein. C'est peut-être des chefs absolus dans ces moments-là. Du moins, ça semble indiquer. J'ai lu un article récemment dans la revue du Nouvel L'Économiste. C'est un article qui a paru dans 2003. Et si vous vous intéressez à ça, je peux vous avoir les références. Je n'ai pas amené avec moi. Mais déjà en 2003, il y avait des théoriciens de l'Union européenne qui se disaient « Si jamais nos efforts ne marchent pas avec 25, nous devons revoir la copie avec un nombre de nations plus restreint et avoir un noyau européen. » Ça, c'est déjà dans l'esprit d'une certaine élite européenne que si jamais la grande Europe ne marche pas, ils vont se rabattre sur une Europe noyau avec peu de nations, un peu plus homogène de point de vue culture et qui pourront être plus unies. Là où nous sommes maintenant, il semble que cette expérience qui est en cours depuis plusieurs années maintenant d'une grande européenne inclusive, athée, plutôt socialiste, semble avoir été refusée par au moins certains États européens. Mais le désir pour une unité européenne semble encore très fort parmi les intellectuels, du moins une partie des intellectuels européens. Et nous entrevoyons qu'une partie du désir qu'il y a pour une Europe forte, c'est pour contrecarrer la puissance des États-Unis. Il y a, dans l'esprit de beaucoup, une nécessité d'une Europe forte en opposition aux États-Unis, qui pour le moment peut faire à peu près comme ils veulent, ce qui dérange beaucoup l'élite européenne et les Européens en général. Il semble donc que nous sommes peut-être à un moment charnier maintenant, où l'Europe va peut-être commencer à prendre une autre direction, une direction qui va l'amener beaucoup plus dans le sens de ce que nous entrevoyons dans ces prophéties-là. C'est une chose que nous voulons garder à l'esprit et surveiller dans les mois et les années à venir. Quelqu'un m'a posé la question, mais maintenant qu'ils ont dit non à l'Europe, est-ce que ça veut dire que nous devons repenser notre compréhension de la prophétie? Et j'ai dit au contraire, nous comprenons depuis des décennies qu'il faut qu'il en ait 10. 25, ce n'est pas 10. Une grande union qui ne veut pas entendre parler du catholicisme, ce n'est pas ce que nous avons dans l'Apocalypse. En fait, ce qui vient tout récemment va exactement dans la lignée de ce que nous croyons depuis, comme j'ai dit, depuis des décennies, que M. Armstrong commençait à comprendre déjà dans les années 40 et 50. Permettez-moi de mentionner encore deux autres choses que nous devrions considérer d'un point de vue prophétique. Nous avons tous été attristés, peut-être choqués un peu par des terribles attentats qui ont lieu à Londres. Ceci suit les attentats qui ont lieu l'année dernière en Espagne. Et il y a la menace d'attentats terroristes qui plane sur d'autres pays européens également. L'Italie était mentionnée en particulier, le Danemark peut-être pour avoir participé aux actions militaires en Afghanistan et en Irak. Est-ce que cela pourrait avoir une retombée ou une importance prophétique? Eh bien, considère avec moi Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel 11, pardon, pas 12, Daniel chapitre 11. Daniel 11 est la prophétie le plus détaillée que nous avons dans tout le livre de Daniel et qui touche à beaucoup d'événements à travers une longue période historique. Mais au verset 40, nous arrivons au temps de la fin. Et cette époque est mentionnée très directement au début du verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi, ça veut dire le sud, se heurtera contre lui. Maintenant, si vous regardez le contexte, le « lui » un peu plus haut, c'est le roi du septentrion, c'est le grand roi dans le nord. Les directions qui sont données dans les prophéties, nord, sud, etc., sont toujours par rapport à la Terre Sainte. Hein, Jérusalem, c'est, bibliquement, c'est le centre du monde. Donc, nous avons un grand roi qui vient du nord de Jérusalem et un grand roi qui est au sud. Et au temps de la fin, le roi du Midi va se heurter contre le roi du Septentrion. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire la Terre Sainte, Israël. Et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Et il étendra sa main sur divers pays, l'Égypte n'échappera point, etc. Au temps de la fin, nous avons un roi important qui vient du sud de Jérusalem, qui va s'attaquer au grand roi au nord de Jérusalem, qui, si nous mettons toutes les prophéties ensemble, eh bien, ce roi du septentrion correspond à la bête dont nous avons lu dans Apocalypse 17, ce grand chef d'une Europe réunie, un saint empire romain ressuscité. Quelles sont les nations au sud? Les nations directement au sud de Jérusalem sont des pays musulmans, sont des pays normalement arabes. Tous les pays musulmans ne sont pas arabes, mais les pays directement au sud sont à la fois musulmans et arabes ou alors africains pour certains. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons un mouvement vers une espèce de militarisme presque continu de certains groupuscules musulmans qui veut s'attaquer à des intérêts en Europe, en particulier aux États-Unis aussi, mais également en Europe. Est-ce que nous voyons maintenant l'ébauche de quelque chose qui va continuer en s'aggravant dans l'avenir, jusqu'au point où finalement il y aura une attaque tellement dévastatrice ou tellement importante que le roi du Septentrion va dire « basta, maintenant il faut mettre de l'ordre dans tout ça, nous y allons pour mettre fin ». Eh bien, nous savons qu'à un moment donné, ça va venir. Et nous pouvons nous poser la question, Est-ce que ce que nous voyons maintenant avec ces attaques terroristes ne sont pas l'ébauche de choses qui doivent se passer de manière encore plus prononcée dans l'avenir? Si nous considérons maintenant la situation en Europe comparée aux pays arabes musulmans, il est difficile à concevoir comment les pays arabes pourraient vraiment s'attaquer à l'Europe de manière militaire de front. Il faudra que ce soit une attaque qui met en colère la bête, si vous voulez, ou ce chef militaire. Mais lui, une fois que la bataille s'ouvre, il gagne très rapidement. Est-ce que le fait de se heurter contre lui pourrait être une attaque terroriste très dévastatrice? Il me semble que c'est tout à fait dans la limite des possibilités. Et même c'est très logique que ce serait le moyen choisi pour un roi du Midi à se heurter contre le roi du Septentrion. On pourrait même imaginer que ce soit, la Bible n'en parle pas, mais c'est quelque chose de suffisamment grave pour qu'il vienne avec toutes ses armées. On pourrait même imaginer que ce soit une attaque avec des armes de destruction massive, chimiques, biologiques, même atomiques. Quelque chose comme cela serait certainement un moyen d'activer cette résurrection du Saint-Empire romain à venir. Alors il est possible, frères et sœurs, que nous voyons déjà les débuts de ce qui va continuer de s'aggraver avec le temps, et pourrait même peut-être aider la formation de cette Union européenne au temps de la fin. Et finalement, il y aura une guerre ouverte entre le roi du Septentrion et le roi du Midi. Et ça va précipiter l'entrée de ce roi du Nord à entrer dans la Terre Sainte. Et ça, c'est la précurseur de la bataille contre Jésus-Christ au moment de son retour. Donc ça, c'est une autre chose intéressante à considérer. Dernière chose, avant de terminer avec le sermon aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été au courant de cette nouvelle, mais il y a quelques mois, le Sanhédrin, c'est-à-dire le corps qui a le droit de légiférer en matière de la religion juive, il y a un Sanhédrin qui s'est reformé en Israël pour la première fois depuis 1600 ans, c'est-à-dire il y a différents rabbins qui se sont regroupés avec différentes autorités parmi la religion juive pour former de nouveau un Sanhédrin. Et ce Sanhédrin siège depuis plusieurs mois maintenant en Israël. Vous pouvez trouver ça si vous êtes féru à l'Internet. Vous pouvez trouver des articles dans la presse israélienne qui attestent de ce fait, qu'il y a un Sanhédrin qui s'est reconstitué. Et ce qui est intéressant également, c'est que leur premier projet de ce Sanhédrin, c'est de centraliser toutes les informations et tous les efforts pour reconstruire un temple juif à Jérusalem. Ça, c'est leur premier projet. C'est leur but premier. Vous le savez probablement, différents groupes de par le passé ont travaillé à recréer des vêtements des sacrificateurs ou à étudier comment on devrait faire certaines procédures dans un temple ou pour des sacrifices. Mais il n'y a pas eu de coordination jusqu'à présent. Eh bien, maintenant, ce Sanhédrin, et il reste à voir s'il sera accepté par le monde juif au sens large, mais au moins ils essayent. Leur première tâche qu'ils se sont fixées, c'est de coordonner les projets pour la reconstruction du temple. Pourquoi est-ce que cela est important pour nous? Eh bien, encore quelques passages avant de terminer, pour voir pourquoi ceci pourrait avoir son importance également. Regardez avec moi Matthieu chapitre 24, verset 15. Alors, comme vous le savez déjà, si jamais un groupe juif essayait de reconstruire un temple, il essaierait sans doute de le faire sur le mont du temple, c'est le lieu saint du judaïsme, et je n'ai pas besoin de vous dire maintenant quelle serait la réaction du monde arabe. Ce sera le djihad absolu tout de suite. Ça serait le chaos comme on ne peut pas l'imaginer maintenant. La quatrième guerre mondiale commencerait tout de suite. Mais il y a une autre chose qui est intéressante à considérer. Regardez une chose que Jésus a dit ici dans Matthieu chapitre 24. Rappelons-nous que le contexte de Matthieu 24, c'est quand les disciples sont venus à Jésus pour dire quels sont les signes de ton avènement et la fin du monde. Donc ça, c'est le contexte de Matthieu 24. Maintenant, regardez le verset 15. Au verset 14, un verset que nous connaissons bien, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, le contexte, c'est le temps de la fin, le retour du Christ. C'est pourquoi, Jésus dit au verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 20, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Nous nous situons dans le temps de la tribulation, et à ce moment-là, Jésus dit qu'il faut veiller à l'établissement de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. C'est quelque chose qui est prophétisé pour la période juste avant la tribulation et le retour de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une abomination de désolation? Ça, c'est pas des termes que nous utilisons fréquemment aujourd'hui. Bien, revoyons ce que Daniel a dit à propos de cela, puisque Jésus a dit « dont a parlé Daniel le prophète ». Regardez Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, verset 30. Et je me rends compte que je commence à accélérer encore. Alors, je ralentis la cadence un peu. Daniel chapitre 11. Nous sommes dans le contexte de quelque chose qui s'est passé quelques centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, quand un roi qui s'appelait Antiochos Épiphane, qui était dans la lignée d'Alexandre, est venu profaner le temple à Jérusalem. Et voici l'explication qui était donnée. À une époque fixée, verset 29, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aux environs de 200 ans avant Jésus-Christ, grosso modo, Antiochos Épiphane est arrivé à Jérusalem. Il a établi une statue de Zeus, l'Olympien, dans le Saint des Saints, dans le temple à Jérusalem, et il a fait sacrifier des cochons sur l'autel. Il a souillé le temple de telle manière que les sacrifices de l'Éternel ne pouvaient pas se poursuivre à ce moment-là. Il a effectivement arrêté le sacrifice perpétuel. C'est dans ce contexte-là que Daniel parle d'abomination du dévastateur. C'était ça, l'abomination de désolation. C'était d'arrêter les sacrifices dans le temple et tellement souiller le temple que l'adoration de l'Éternel ne pouvait pas se poursuivre à Jérusalem à cette époque. C'est ça que Jésus a dit pour la période à venir, juste avant le retour du Christ. Quand vous verrez l'abomination de désolation établie en lieu saint, dont a parlé Daniel le prophète, c'est une indication qu'au temps de la fin, quelque chose de similaire va se passer de nouveau. Qu'un sacrifice sera arrêté, qu'un temple sera souillé. Nous avons vu dans Daniel que spécifiquement, la chose qui était mentionnée, c'est qu'il a fait cesser le sacrifice perpétuel. Le sacrifice d'animaux qui se faisait chaque matin et chaque soir. Les dires de Jésus dans Matthieu 24 sont une indication très forte que quelque chose comme cela se passera de nouveau au moment du retour de Jésus-Christ ou peu de temps avant son retour. Il a été établi déjà par les autorités juives qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un temple pour avoir des sacrifices. Et il y a des groupes qui étudient comment ils pourraient recommencer des sacrifices d'animaux à Jérusalem sans avoir de temple. D'autres aimeraient construire un temple. L'un ou l'autre est certainement possible. Mais c'est intéressant à surveiller ces choses parce que maintenant il y a ce groupe qui se reconstitue et qui se donne comme but numéro un la reconstruction d'un temple et le redémarrage des sacrifices. Et nous avons les dires de Jésus qui disent « Quand vous verrez cette abomination, qui dans Daniel est identifiée comme l'arrêt de ces sacrifices, quand vous voyez cela se produire, sachez que le temps est court. C'est le moment de préparer à partir. » Donc ça aussi, c'est quelque chose à surveiller dans les mois et les années à venir. S'ils commencent à reconstruire un temple ou s'ils commencent à refaire des sacrifices d'une manière ou d'une autre à Jérusalem, ça serait une indication que nous nous approchons encore plus de l'accomplissement de toutes ces prophéties différentes. Les événements prophétiques dont Daniel a parlé ou dont Dieu a fait comprendre à Daniel la signification il y a des milliers d'années maintenant, le complément d'information que Dieu a donné dans les visions à l'apôtre Jean, toutes ces choses-là dont Dieu nous donne la compréhension, au moins dans les grandes lignes, nous voyons la préparation de l'accomplissement de beaucoup de ces choses dans le monde autour de nous. Et cela devrait nous stimuler, nous intéresser, nous tenir sur le qui-vive, nous aider à faire attention à notre relation avec notre Père Céleste. Car c'est pour cela que Dieu nous donne cette compréhension, pour nous aider à réfléchir au fait que je n'ai pas un temps illimité. J'ai un certain temps pour accomplir ce que Dieu voudrait que j'accomplisse dans ma vie. Et c'est à nous de vaquer à accomplir ce que Dieu nous donne à faire. Je vais terminer dans Apocalypse 18. Nous l'avons lu il y a quelques minutes. Quand nous comprenons ce qui doit arriver à Rome, à cette résurrection du Saint-Empire romain à venir, à tous ceux qui participeront à cette dernière résurrection de l'Empire romain à venir, qu'est-ce que nous devrions garder à l'esprit pour nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, je termine avec Apocalypse 18, verset 4. « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Ça ne veut pas dire sortir d'elle physiquement. Nous ne devons pas tous déménager en Antarctique ou en Alaska ou un endroit reculé pour ne pas vivre dans une région qui pourrait être gouvernée par cet empire. Sortez du milieu d'elle spirituellement. Nous ne voulons pas participer à ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu ou des instructions de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, c'est ça que nous devons éviter, ne pas accepter la pente glissante de l'immoralité du monde qui nous entoure. Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et Dieu offre sa protection, il offre sa bénédiction à son peuple, sa force pour nous aider à tenir bon, pendant que nous voyons toutes ces choses s'accomplir autour de nous. Les événements prophétiques sont en cours maintenant. Parfois, nous les voyons plus clairement qu'à d'autres. Mais Dieu veille à l'accomplissement de son plan. Et il veille sur nous également. À nous de nous attacher à lui et de rester fidèles à ce que Dieu nous dit de faire. Voilà, c'était un plaisir de pouvoir passer cette assemblée de sabbat avec vous. J'espère qu'il ne sera pas trop long avant que nous puissions avoir une autre occasion de le faire. Et